entre les différents acteurs. Cette confiance, à l'heure actuelle, elle est complètement détruite.
Édition spéciale, Philippe Le Caplain.
Dans les deux camps, ce qui s'est passé la nuit dernière a provoqué des manifestations de soutien. Siavosh Ghazi à Téhéran, le président a participé à une manifestation dans la capitale pour dénoncer ces frappes américaines.
Absolument, c'était une petite manifestation qui a eu lieu donc dans la capitale et le président s'y est rendu en appelant à l'unité de la population face à l'agression israélienne et américaine. Il a aussi fait d'autres déclarations en disant que l'Iran se devait de répondre à l'agression et aussi le fait que les missiles qui ont été envoyés ce matin contre Israël constituent en fait une réponse ou une première réponse à l'agression, je le cite, des États-Unis, et donc parce que selon lui, Israël n'aurait jamais pu agir contre l'Iran sans l'aide des États-Unis. Donc des menaces très claires de la part du président, mais aussi d'autres responsables, notamment les gardiens de la révolution.
Jonathan Piron, le régime iranien est donc sérieusement ébranlé par ces frappes de missiles et ces bombardements, mais la poudre et les explosifs peut-il le faire tomber ?
Non, c'est encore un souhait visiblement de Netanyahou, un objectif qui est quand même assez difficile à atteindre, puisque de tous les échos qu'on a qui viennent d'Iran, on voit que la population vit dans de la peur, dans de la crainte, aussi dans du fatalisme, et donc l'intention révolutionnaire n'est pas du tout présente, d'autant plus qu'il n'y a pas un mouvement politique organisé qui représente une alternative. Il y en avait eu un au moment des élections de 2009 avec la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, le mouvement vert, mais il n'y en avait pas un durant le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a ébranlé l'Iran il y a quelques années. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'alternative. S'il y a un jour un changement de régime à cause de ce qui est en train de se passer, différentes analyses pointent plus en fait sur la possibilité d'un coup d'État qui viendrait de l'intérieur parce que les structures, notamment autour du guide, en fait, seraient tellement affaiblies que ce serait une opportunité saisie par certains ultranationalistes. Mais encore une fois, c'est beaucoup de spéculation, aucune certitude à l'heure actuelle d'un changement de régime.
Une question, Dorian Verdier du service international de RFI.
Oui, il est vrai qu'en échangeant avec différentes personnes en Iran, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont un peu volées par la communauté internationale puisque ils estiment qu'ils ont mené un mouvement de révolution pacifique de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a eu des interventions violentes et qui amènent au chaos. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné une réunion du mouvement qui a été entamée par la population iranienne et de l'intervention aujourd'hui des États-Unis et d'Israël ?
On ne sait pas prédire à l'avance un mouvement révolutionnaire. On l'a vu notamment dans d'autres expériences, pas seulement iraniennes, mais aussi à l'étranger.
Jonathan Piron ? Ah, visiblement, on vous a perdu. En attendant de retrouver ce chercheur spécialiste de l'Iran, Oriane Verdieu, les oppositions. Quelle est l'opposition aujourd'hui à l'Ira Menaï ? Ou les oppositions ? Il y a une opposition en interne et une opposition réfugiée à l'étranger. Parlons de l'opposition en interne, au sein même de l'Iran.
Oui, alors justement, on l'a suivi sur cette antenne, mais dans tous les médias, le dernier mouvement qui a fédéré toutes les protestations en interne qui étaient Femmes, Vie, Liberté, où les Iraniens se sont unis et ont tenté de créer quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a eu une répression extrêmement violente. Et aujourd'hui aussi, le problème que soulèvent beaucoup d'Iraniens, c'est que ce mouvement n'a pas été soutenu par la communauté internationale, pas suffisamment en tout cas, en partie ni par les États-Unis ni par l'Union européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en interne, oui, il y a beaucoup de protestations, mais il n'y a pas d'organisation concrète de cette opposition.
Jonathan Piron, ça veut dire que un renversement de l'intérieur est inconcevable ?
Et en tout cas, il est très improbable à l'heure où nous parlons maintenant. Nous sommes aussi dans une séquence qui n'est certainement pas terminée. On sait aussi que le ressentiment qui existe à l'intérieur du pays à l'égard du régime reste toujours très important. Il faudra voir aussi dans les semaines à venir comment la séquence va évoluer. Est-ce que le régime va apparaître encore plus affaibli ou est-ce qu'il va aussi se durcir ? On a aussi des informations qui font état d'une présence plus massive des services de sécurité comme les Pasdaran ou les Basiji dans les différentes rues qui se trouvent en Iran. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, un tel renversement de l'intérieur semble très improbable.
Ali Khamenei doit partir, c'est ce que déclare aujourd'hui Mariam Rajavi, la chef de file du Conseil national de la résistance iranienne. C'est un mouvement d'opposition basé à Paris. Il y a d'autres endroits dans le monde, Oriane Verdier, où il y a une opposition iranienne agissante, aux États-Unis, je pense.
Oui, il y a notamment le fils de l'ancien Shah d'Iran, donc Reza Pahlavi, qui a appelé lui également au soulèvement et qui se présente justement de l'étranger projet comme un possible référent pour un changement de régime. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Reza Pahlavi est vu comme un pantin d'Israël et des États-Unis. Donc, pour la population iranienne, il est clair que ça semble être, en tout cas, pas un leader qui fera l'unanimité. En tout cas, il est très dangereux, de mon point de vue, d'estimer que cette personne pourrait être présentée comme une solution.
Jonathan Piron, le fils du Shah d'Iran, c'est l'homme des Américains, l'homme des Israéliens.
Il est perçu de cette manière, mais depuis longtemps aussi, il est discrédité, il est moqué, il est détesté aussi pour ce qu'il représente. On l'a vu récemment d'ailleurs dans un voyage en Israël s'afficher avec Benjamin Netanyahou. Il s'était d'ailleurs présenté justement comme avocat en fait des Iraniens durant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et sur certains murs de Téhéran, il était mis en graffiti, nous n'avons pas besoin d'un avocat. Donc ça prouve notamment que toute la diaspora en fait à l'extérieur de l'Iran est assez mal perçue à l'intérieur du pays. Les moudjahidines du peuple notamment aussi sont honnis en fait parce qu'ils se sont alignés du côté de Saddam Hussein durant la guerre Iran-Irak des années 80. Et donc on voit que de ce côté-là non plus, il n'y a pas d'alternative politique à l'extérieur du pays.
Alors de l'autre côté, côté israélien, au rythme des alertes alors que les commerces et les écoles étaient fermés aujourd'hui, la population était invitée à rester chez elle dans la crainte de représailles, de tirs de missiles iraniens. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem pour Radio France Internationale. Tout d'abord sur les bombardements américains, est-ce que les Israéliens expriment leur satisfaction ?
Oui, en Israël, les responsables politiques se félicitent de l'intervention américaine. Symboliquement, fin d'après-midi, le Premier ministre Netanyahou s'est même rendu au mur des lamentations pour prier pour la réussite de l'offensive en Iran. Et il a récité également, au passage, une prière à la gloire de Donald Trump, mais au niveau plus terre à terre, disons, d'un coup, tout semble remis dans un autre contexte. On parlait de dissonance entre Netanyahou et Trump à propos d'une frappe préventive en Iran. Et bien maintenant, les commentateurs semblent être unanimes pour affirmer, au contraire, qu'il y a eu une grande connivence entre les deux hommes et que le tout était une gigantesque mise en scène pour tromper l'ennemi. Satisfaction, donc, mais aussi inquiétude. La frappe américaine a été spectaculaire, mais ses résultats ne sont pas encore vérifiés, certainement pas à 100%. Le programme nucléaire iranien a-t-il réellement été anéanti ? Ce n'est pas sûr. Et le pire scénario pour Israël, ce serait une guerre d'usure avec Téhéran. La guerre Iran-Irak, on s'en souvient, a duré pendant 8 ans.
Alors, vouloir détruire les installations nucléaires iraniennes est une chose, mais Benjamin Netanyahou ne veut pas en rester là. Il veut encore la chute du Guide suprême.
Oui, alors il faut le souligner, depuis plus de 48 heures, plus un mot en Israël sur la chute du régime iranien. Israël Katz, le ministre de la Défense, spécialiste des déclarations à l'emporte-pièce, avait proclamé il y a quelques jours que le guide suprême iranien ne méritait pas de continuer d'exister. Benjamin Netanyahou l'a publiquement remis à sa place et il a ordonné aux membres de son gouvernement de ne plus s'exprimer sur ce sujet. La position israélienne sur cette question a été exprimée par Netanyahou. C'est au peuple iranien de décider quel régime il souhaite, tout en ne cachant pas son espoir de voir les choses changer en Iran, un désir qui est probablement partagé par de nombreux leaders politiques dans le monde.
Et Michel Paul, en ligne de Jérusalem, Oriane Verdier, les Israéliens clament vouloir la tête d'Ali Khamenei, mais les États-Unis se défendent, eux, de vouloir la chute du régime. Alors, est-ce qu'on assiste au petit jeu du gentil et du méchant flic ? Subterfuge ou divergence ?
Alors, peut-être plutôt divergence, en tout cas de mon point de vue, puisque je pense que si les États-Unis avaient réellement voulu aider à la chute du régime, ils auraient pu potentiellement aider, comme on le disait, les mouvements en interne en Iran. Est-ce que réellement il est dans l'intérêt et de l'Europe et des États-Unis d'avoir une chute de régime, la chute d'un interlocuteur, même si cet interlocuteur pour l'instant n'était pas dans les petits papiers de Washington. En tout cas, on ne sait pas ce qui pourrait succéder à ce régime et en tout cas et il pourrait y avoir un chaos. C'est ce qu'on a vu aussi avec la Syrie. Il n'est pas sûr que la communauté internationale veuille la chute d'un régime.
Toujours en ligne de Bruxelles, Jonathan Piron, chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur l'appel à sécurité. Vous en pensez quoi sur le fait qu'Ali Khamenei serait ou ne serait plus une cible ?
On voit ici qu'il y a eu, semble-t-il, avant le début des frappes israéliennes, un veto des États-Unis sur cette intention qui aurait été celle des Israéliens, du gouvernement Netanyahou, d'éliminer le guide de la révolution. En fait, ça amène aussi toute série de questions sur son successeur. Et donc, le système iranien reste quand même en place. Il y a toute série d'institutions, d'assemblées. Le gouvernement civil n'a pas été touché, notamment par les frappes. Le guide est élu aussi par ce qu'on appelle l'Assemblée des experts, qui pourrait en fait se réunir très vite et alors élire un successeur à Khamenei si jamais celui-ci venait à disparaître. La question, en fait, c'est que dans les circonstances d'une telle frappe, il serait aussi possible que le successeur soit encore plus radical ou plus ultranationaliste que Khamenei, qui reste quand même aussi un personnage calculateur, politique, qui s'est aussi entouré de toute série de conseillers qui voulaient jouer la stratégie de la patience. Et donc, dans la situation d'une frappe militaire, on pourrait se retrouver avec un régime iranien qui serait encore beaucoup plus dans la volonté, justement, d'entrer en tension et en crise dans la région, avec peut-être aussi la décision d'obtenir l'arme nucléaire.
Vous écoutez Radio France Internationale, 18h20 en temps universel.
Édition spéciale, Philippe Le Caplin.
Bien évidemment, après ces bombardements américains, les réactions sont très nombreuses. La Russie condamne fermement ces attaques menées par les États-Unis. Mais pour l'Ukraine, ces frappes américaines et israéliennes sont justifiées et envoient un signal clair. La chef de la diplomatie de l'Union européenne exhorte à une désescalade et à un retour aux négociations. Emmanuel Macron appelle à éviter lui aussi une escalade incontrôlée au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a dit en ouverture du Conseil de défense qui se tient en ce moment même, au moment où nous parlons, à l'Élysée. Qu'en est-il des pays arabes, Oriane Verdier ?
Eh bien, partout, c'est avant tout l'inquiétude d'une guerre régionale qui est exprimée par des pays dont certains accueillent des forces américaines et d'autres des milices pro-iraniennes. L'Arabie Saoudite, ancien rival régional de l'Iran, avec qui elle a commencé à renouer les liens, s'est dite très préoccupée. Le Qatar, qui accueille la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, a déclaré craindre des conséquences catastrophiques pour la région. Oman, qui a servi de médiateur lors des récents pourparlers nucléaires entre Washington et Téhéran, a fermement condamné des frappes américaines qu'elle qualifie d'illégales. Les Émirats arabes unis ont également exprimé leur inquiétude, appelant à mettre fin immédiatement à l'escalade. L'Irak, lui, a fermement également condamné ces attaques. Le pays est frontalier de l'Iran, je le rappelle. Il accueille aussi bien des bases américaines que des milices pro-iraniennes. Le président libanais, Joseph Aoun, appelle à la stabilité. Le pays a été éprouvé en interne par les affrontements destructeurs entre Israël et la milice pro-iranienne, le Hezbollah.
Il y a donc des condamnations des bombardements américains, mais au-delà, l'Iran semble bien isolé dans le monde arabe, Jonathan Piron.
En effet, même si on voit ici toute série de déclarations qui contestent la situation, la poursuite du conflit, on sait aussi que toute une série d'États de la région sont assez satisfaits en fait, de voir le régime iranien aussi affaibli. Il a quand même pendant très longtemps, au cours de ces dernières années, représenté un élément de déstabilisation important. On l'a vu en Syrie, on l'a vu au Liban, aussi au Yémen, où les Houthis s'en sont pris, notamment à l'Arabie Saoudite. Il y a aussi eu des tensions très fortes avec les Émirats Arabes Unis. Et donc de voir ici le régime iranien dans une position presque inédite, en fait, depuis la révolution islamique, dans une position de faiblesse qui l'amène d'ailleurs aujourd'hui à être très loin, finalement, dans cette volonté d'hégémonie régionale. C'est aussi une situation qui, en coulisses, satisfait les différentes capitales régionales.
Je voudrais qu'on parle du détroit d'Ormuz au sud de l'Iran. Au large des côtes, il permet le passage du commerce international entre la mer d'Oman et le golfe Persique, notamment le passage du pétrole. N'est-ce pas là, finalement, l'autre enjeu de ce conflit, le centre d'intérêt des Américains ?
On voit ici le débat sur le détroit d'Ormuz revenir assez régulièrement avec ces menaces de la fermeture qui serait réalisée par le régime iranien. En fait, on a déjà vu par le passé des contraintes s'exercer sur ce fameux détroit, notamment durant la guerre Iran-Irak. Ormuz, c'est un lieu de passage important puisque un cinquième des hydrocarbures du monde, 20% en fait, transite par ce territoire. Et donc, le bloquer ou provoquer sa fermeture pourrait en fait amener des conséquences dangereuses pour la région, mais aussi pour l'économie mondiale. Maintenant, il ne faut pas oublier que une grande majorité de l'hydrocarbure qui sort d'Ormuz ne va pas vers l'Europe ou vers les États-Unis, mais en fait va vers l'Asie, Chine en tête. Et on sait que la Chine est un partenaire important pour le régime iranien. Et donc, est-ce que le régime iranien, dans cette situation difficile, irait jusqu'à prendre cette décision presque suicidaire qui le mettrait aussi en difficulté avec un de rares soutiens qui lui reste? On est peut-être plus ici, en fait, dans du chantage, dans la dissuasion, mais dans un outil que le régime ne voudra vraiment utiliser qu'en dernier recours.
Autre question à présent. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures, dans la nuit à venir?
Édition spéciale, Philippe Le Caplin.
Autrement dit, l'armée américaine va-t-elle relancer ses bombardiers sur l'Iran? Pierre-Olivier, vous êtes à Washington, aux États-Unis. Qu'en dit-on, dans la population américaine, de ces bombardements, de ces frappes de la nuit dernière?
Alors en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une nouvelle attaque cette nuit, dans les heures qui viennent, n'est pas à l'ordre du jour ici, en tout cas au moment où l'on se parle. Il est 14h20 ici à Washington, d'abord car l'objectif que s'était fixé Donald Trump semble avoir été atteint. Les capacités nucléaires iraniennes sont à l'agonie, presque quasiment détruites, même s'il semblerait, d'après les dernières informations que l'on a, que le site de Fordo ne soit pas totalement hors service. En tout cas, dans la matinée, le vice-président J.D. Vance a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes au sol ni de poursuivre une guerre prolongée. Pas de nouvelle action prévue donc, sauf si bien sûr l'Iran décide de riposter et de s'en prendre aux bases américaines nombreuses dans la région dans les heures qui viennent. Une option vivement déconseillée, vous vous en souvenez, par le président lui-même lors de son allocution hier soir, promettant en cas de représailles une tragédie pour l'Iran, Philippe.
Ça veut dire que les États-Unis veulent aller encore plus loin ?
Alors, ça veut dire qu'en tout cas, pas par la voie militaire, pas pour le moment. Ce dimanche, à Washington, après les bombes de la nuit dernière, le ton est plutôt à la diplomatie. Je vous propose d'écouter le vice-président J.D. Vance qui s'exprimait tout à l'heure sur NBC.
Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran, nous sommes en guerre contre son programme nucléaire. Ce que nous avons fait, c'est détruire le programme nucléaire iranien et je pense que nous l'avons sérieusement retardé. Mais ce qu'on dit aux Iraniens, c'est qu'on ne veut pas la guerre, mais la paix. Et s'ils ne touchent pas à nos troupes et décident d'abandonner une bonne fois pour toutes leur programme d'armement nucléaire, nous pourrons entretenir de bonnes relations avec les Iraniens et cette région du monde pourra retrouver la paix.
Voilà, nous ne sommes pas en guerre, vous l'avez entendu, contre l'Iran, mais contre son programme nucléaire, a dit le vice-président. Pas sûr que l'Iran soit vraiment d'humeur à faire le distinguo ce soir. Téhéran, pour l'instant, ferme complètement la porte aux propositions de négociation de Washington, réitérées ce matin par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui a ouvert grand la porte au dialogue en disant « Nous sommes prêts à leur parler dès demain, après le bâton ». Washington présente donc aujourd'hui la carotte.
Pierre-Olivier, encore une chose, Donald Trump a donné l'ordre de bombarder sans en référer à grand monde. Est-ce que ça suscite des critiques du côté démocrate, certainement, également du côté républicain ?
Oui, alors justement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'exécutif répète en boucle depuis ce matin qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre à l'Iran, car vous le savez, il faut pour cela, pour déclarer la guerre, l'accord du Congrès. Or, Donald Trump a agi en dehors de ce cadre, comme il y est autorisé pour des opérations ponctuelles. Mais il n'en fallait pas plus pour que l'opposition démocrate dénonce un acte illégal, anticonstitutionnel et menace d'ouvrir une procédure de destitution. Et puis, même dans le propre camp du président, les voix ne sont pas unanimes, loin de là, notamment du côté des MAGA, des isolationnistes, pour qui cette guerre n'est pas celle des États-Unis. Il faudra donc voir comment Donald Trump va défendre son intervention militaire auprès de l'opinion américaine dans les prochaines heures.
Pierre-Olivier, en ligne de Washington, dans une demi-heure, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence à New York. Jonathan Piron, est-ce que l'Europe peut jouer un rôle, l'Europe qui est représentée au Conseil de sécurité ?
Mais l'Europe a voulu jouer un rôle encore récemment, puisque des négociations entre les Européens et les Iraniens ont eu lieu. Il y a toujours cette volonté aussi pour les Européens de maintenir en place l'accord de 2015, parce qu'il existe toujours. Et donc, on voit que cette volonté de négociation est présente, mais les Européens sont clairement maintenant mis sur la touche par les Américains, par les Israéliens, par les politiques du fait accompli. Et en fait, on peut se demander aussi si, au-delà de ce qui se passe maintenant en Iran, nous ne sommes pas entrés en fait dans un fonctionnement du système international qui n'est plus basé sur la négociation, mais sur le rapport de force dur, avec cette idée que la guerre devient un outil légitime de résolution des conflits. On l'a vu avec la Russie et l'Ukraine, on le voit maintenant au Moyen-Orient. Et donc cela crée encore plus d'instabilité et de chaos, puisqu'en effet, seule la diplomatie permet l'installation durable de la paix.
Merci pour ces analyses, Jonathan Piron. Encore un mot de vous, Auriane Verdier. L'ONU est incontournable dans ce conflit ou impuissante ?
Bien, j'aurais tendance à répondre les deux. Tout d'abord, le droit international doit rester incontournable face à l'escalade de violence à laquelle on assiste maintenant depuis plus d'un an et demi. Un phare pour tenter de sortir de la polarisation du monde qui se cristallise dans la guerre entre Israël et l'Iran, mais avant cela également dans la guerre que mène Israël à Gaza. Cependant, une fois de plus, les Nations Unies sont confrontées à leurs propres contradictions. Au regard du droit international, l'opération américaine, je dois le rappeler, est une violation des règles, une agression contre un État sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies est une violation des
règles. Voilà pour cette édition spéciale. Rédaction en chef, Benoît Sominiac, technique Arthur Geoffroy, était